France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Aujourd'hui, on ouvre un chapitre mythique de l'histoire du rap, celui du Wu-Tang Clan. Plus qu'un groupe, c'est une galaxie, une philosophie, un symbole qui a traversé les décennies sans jamais perdre son aura. Si on en parle ce soir, c'est parce que sort ce mercredi Wu-Tang Experience, un film qui plonge dans l'univers unique de cette formation new-yorkaise, filmée pendant la préparation et le concert symphonique au Red Rocks Amphithéâtre. Pour l'occasion, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Reza, cerveau et architecte du Wu, qui nous racontera sa vision, son héritage et ce que signifie encore aujourd'hui porter le blason du groupe. Vous pourrez entendre l'entretien au cours de l'émission. Et pour en débattre, analyser et peut-être confronter nos souvenirs, j'ai le plaisir d'accueillir deux passionnés et fins connaisseurs, Olivier Nguessan, ancien journaliste chez RER, qui avait été commissaire de l'exposition Woolab il y a quelques années, qui maintenant est consultant, et Aurélien Chapuis, journaliste musical, qui officie aujourd'hui au sein de Music Sound Better With Us. Ensemble, on va revenir sur ce que le Wu-Tang a changé, pas seulement dans le rap, mais dans la culture populaire mondiale. Installez-vous, on part direction Staten Island. C'est parti pour une heure consacrée Wu-Tang à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Alors messieurs, déjà merci d'être là, je vais un peu vite parce qu'il y a plein de choses à aborder quand on parle du Wu-Tang, il y a plein de membres, plein d'albums, et évidemment quand on parle du Wu, souvent on cite le premier album, Enter the 36 Chambers, qui est vu comme un des plus grands albums de l'histoire de la musique, tout court. Est-ce que c'est votre premier souvenir avec le Wu, et est-ce que vous pouvez me rappeler, nous raconter comment vous avez vécu la sortie de cet album, Olivier?
Bah moi, mon premier souvenir, c'était à Châtelet-Léal, chez un disquaire. J'avais vu un des premiers maxi et j'avais pas du tout aimé.
C'est vrai?
Ah oui, je me disais, mais c'est quoi ce bordel? C'est vrai que je l'ai souvent raconté, mais j'avais pas du tout aimé. Après, quand j'ai vu sur la sortie officielle, la photo de Danny Hastings avec les masques et tout, je me disais, qu'est-ce que c'est ce bordel? Parce qu'en fait, il y avait plein de groupes qui étaient un peu dans la tendance Woodraz. Il y avait plein de groupes. Et je me disais, mais eux, ils vont apporter quoi? Et j'avais pas du tout aimé. Et c'est après que j'ai été pris.
Au
début, non, pas du tout. Pas du
Aurélien Chapuis, qu'on appelle aussi Nemo, par ailleurs, il se peut que je t'appelle Nemo.
Bien sûr,
pendant,
avec plaisir.
Pendant l'émission.
Avec plaisir.
Quel impact cet album il a eu? Puisque Olivier disait quelque chose d'intéressant, au début, il a pas aimé. C'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on raconte souvent, c'est aussi les productions de Reza, qui sont étranges, presque désaccords. Surtout sur le premier album,
c'est
sur celui-ci.
C'est un peu crade, quoi.
Est-ce que toi, ça t'a parlé tout de suite, et comment tu analyses l'impact que l'album a eu instantanément?
Bah en fait, moi pareil, je l'ai reçu un peu en retard, c'est-à-dire que je pense la France, on l'a reçu vraiment l'année 95 en pleine tronche, à savoir les albums solo, donc Rekwan...
Des membres
du groupe, qui après avaient vraiment créé cette grande toile d'araignée, et on est revenu sur le premier album, qui au début, en effet, me faisait pareil, ça faisait un peu comme les albums de rap qui avaient 2-3 ans de retard, tu te dis, mais c'est quoi ce son? C'est bizarre, c'est pas le même son que les autres albums,
ouais.
C'est un peu, on dirait des démos en fait. Et après, tu rentres vraiment dans l'esprit et tu le compares avec le reste du rap américain de l'époque et tu vois à quel point c'était visionnaire, notamment par la façon dont c'était samplé, la façon dont c'était travaillé et surtout le nombre de rappeurs extrêmement bon, direct en fait.
Ouais.
Et on n'avait pas à les reconnaître au début. On a mis du temps à capter les 9 rappeurs et les 9 étaient excellents et ça c'était très
rare. Et différent. Et il n'y en a pas un qui rappait comme l'autre.
Oui, puis on va sûrement reparler après, mais chacun a un peu créé un style musical dans le rap américain à lui tout seul. C'est-à-dire qu'il y a Ghostface, Raekwon, ils ont créé leur truc, Genius, il a créé son truc, Method Man, avec plus tard Redman, ils ont créé leur truc aussi. Donc c'est vraiment un début de toile d'araignée qui va être presque, j'ai envie de dire, un style musical à part. Il y a des gens, ils écoutent que le Wu-Tang en fait. Ils disent qu'ils écoutent du rap, mais ils écoutent le Wu-Tang finalement.
Ouais.
Et ça, c'est assez passionnant. Et tout démarre dans cet album Enter the Wu-Tang qui va rester la pièce maîtresse, parce que c'est là où on voit la hargne, la rage qu'ils ont de tout balancer d'un coup, quoi. C'est ça qui est fort.
On raconte, et je crois à raison, que Reza est l'architecte du groupe. Je vais pas dire le cerveau, parce que c'est vraiment neuf cerveaux, mais en tout cas,
ouais,
l'architecte, la tête pensante. Quel rôle, et comment expliquer son rôle central dans le collectif, Olivier? Toi qui le connais bien,
oui,
en plus, je crois,
oui,
maintenant.
En plus, moi, je connais tous les alias, toute la famille autour. En fait, il faut dire que lui, il a eu l'idée visionnaire. Mais après, il a eu besoin de tout le monde derrière. C'est pour ça qu'il y a un gros travail d'équipe à Staten Island et ça reste la légende de Staten Island, que JB, le réal du film que tu as vu, qui a grandi avec eux. Donc il y a vraiment cette essence en fait de communauté. Voilà. Et c'est vrai que Reza a créé le Wu-Tang, mais c'est Staten Island, où il a réuni tous les quartiers.
Ouais, parce qu'en fait, c'est ça qui est important. Et tu le vois bien dans la série, d'ailleurs, que moi, j'avais pas
la série, c'est Wu-Tang, un American Saga. Exactement. Qui est aussi importante dans, je pense, le récit du Wu-Tang moderne. Je pense que plein de gens aussi découvrent
comme ça, les jeunes.
Sur Disney+.
Exactement. Mais moi, je vais pas regarder. Hein. J'ai regardé qu'une saison parce que j'étais obligé. Ouais, parce que...
Ah, tu veux pas regarder la série?
Non, parce que je connais tellement que lorsque je regarde. Ouais. Même l'histoire que les gens ne connaissent pas. Donc, c'est.
Okay. Moi, j'aime bien parce qu'il y a un côté un peu comme si tu regardais des comics, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer une légende par-dessus et ça, je trouve ça cool. Mais c'est vrai que tu vois que le vrai truc qu'ils ont réussi à faire, c'était deux quartiers qui se tiraient dessus. Genre, Raekwon et Ghostface, ils s'aimaient pas trop au départ, tu vois.
Entre Stapleton et Park Hill, c'était chaud.
Donc c'est quand même à la base une réunion par le rap, par tu vois l'unité via la musique de gars qui s'entendaient pas vraiment en fait. Donc ça c'est fort.
Une unité, il a réussi à créer une unité à Staten Island parce qu'à la base il y avait Brooklyn, il y avait la famille de ODB, donc tout le monde passait par Brooklyn. Ah. Et là réunir ce quartier, ces quartiers là à Staten Island qui était une île quand même difficile et tout le monde connaissait Staten Island par UMCs ou Force MDs. Il y avait pas vraiment de rappeurs qui sortaient du lot.
Bien sûr. Puis c'était réputé comme être la poubelle de New York en plus.
Exactement.
Il y avait les détritus et tout. Personne n'y allait. C'était compliqué quoi.
Alors sur ce premier album, il y a énormément de morceaux incroyables. Mais moi, j'ai toujours une affection particulière pour The Mystery of Chess Boxing. A game of chess is like a sword fight. You must think first, before you move. Style is immensely strong and immune to nearly any weapon. When it's properly used, it's almost to you with no trivia. Roll like cocaine straight from Bolivia. My hip hop will rock. Je voulais mettre le début du morceau parce que le Wu-Tang, bien sûr, c'est des rappeurs, c'est des productions, mais c'est aussi toute une mythologie, toute une esthétique, bien sûr, les films de kung-fu, enfin, tout l'aspect spirituel. Et ça, dès ce premier album, tout est dedans, en fait, Olivier.
Tout est créé, et tout est pensé, et tout est visionnarisé.
Ouais.
Et donc là, il fallait le comprendre. Moi, quand j'avais rien compris, mais au début, quand je suis revenu dessus, je me suis dit, mais c'est exactement ça. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Ça fait penser à mes grands frères en Afrique qui regardait les films de Kung Fu à France CFA, et c'était la même chose, sauf qu'eux l'ont retransposé dans le rap, certains l'ont mis dans la danse, mais c'était impressionnant. Quand tu comprends après, tu dis mais il avait raison, il a eu une vision et tout, parce que les films chinois, tout le monde connaissait. Les films de karaté, c'était vraiment quelque chose...
C'est quelque chose de populaire, en fait, même
exactement,
dans les quartiers, bien sûr.
Ils sont pas partis chercher loin, hein, en fait, hein, dans la conception de cet album, et l'apport qu'a eu Reza, mais il a su mettre ça en forme.
Est-ce que toi, ça t'a, Nemo, est-ce que ça t'a donné peut-être aussi envie de construire, de creuser des éléments? Parce que moi, quand je découvre le Wu-Tang, je me souviens que j'étais un peu après, quand Internet arrive, je télécharge des lyrics, et il y a plein de références que je ne comprends pas.
Bien sûr.
En fait, est-ce que toi, ça t'a aussi peut-être fait...
À fond, parce que ce qui était intéressant, c'est que moi, j'étais en train de créer à cette époque-là ma culture cinématographique et musicale, et il y avait vraiment une liaison entre les deux. Chaque album du Wu, à cette période, avait presque son enfant film, en fait. Donc, il y avait Raekwon avec John Woo, le fameux The Killer. Moi, vraiment, tout l'amour que j'ai de John Woo dans les années 90,
il
vient un peu de cet album-là. Ouais. Enfin, c'est un mélange. Je me dis, ouah, ces mecs-là, ils regardent les mêmes films que moi dans mon petit village et tout. Et ils vivent le même truc finalement. Ils le comprennent de la même façon.
Tu prenais pour Raekwon, toi.
Un petit peu. Et puis, il y avait Shogun Assassin. Tu vois, des phrases, en fait, après, elles te restent en tête. Et puis, bien sûr, il y a plein de films que j'ai vus comme ça que j'aurais jamais regardé. Juste parce que je me disais, ah, c'est les phrases du film Wu-Tang. Et en plus, on l'a regardé en version américaine qui était donc mal sous-titrée, bizarre, avec d'autres musiques à l'intérieur. Enfin, ça a créé. Et puis, vraiment un univers complet. Quoi.
Et puis c'est l'empire cinématographique de Reza qui a su transposer ça, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de producteurs. Quand je vois ODB, ça te fait penser à un vol au-dessus d'un nid de coucou. Il y a plein de choses qu'on se dit, ah oui, il est parti chercher super loin. Il a été vraiment visionnaire en termes de cinématographie visuelle et musicale.
Tu parles du cinéma avec Reza dans l'interview qu'on écoutera juste après. On a parlé aussi notamment de la BO qu'il a composée pour Ghost Dog, qui est sa première incursion
de Jim Jarmusch,
absolument. Mais tu viens de citer ODB et on peut rapidement écouter un extrait de Brooklyn Zoo. Yeah. Party people all around the town. It's the ODB, kid. Something coming through your area. And I'm gonna tell you one time, you gon' love this. I'm the one man on me, Ace on. I never been tooken out. I keep MCs looking out. I drop signs like Crosby dropping babies. Enough to make a nigga go crazy.
Alors généralement on met pas les morceaux dès le début parce que là il se passe quelque chose dès le début en fait. Tu parlais de Voix au-dessus d'un nid de coucou, le côté excentrique de Odibi, bah, on l'entend dès l'introduction. Ah oui. Odibi bien sûr qui nous a quitté aujourd'hui, qui
paie à son âme.
Paie à son âme bien sûr.
Plus de 20
Qu'est-ce
ans,
que lui aussi a apporté, parce que Nemo tu disais voilà les 9 rappeurs sont forts et c'est vrai, les 9 rappeurs sont différents et Odibi avait le côté effectivement très excentrique.
Oui, c'était
qui est un des premiers à l'avoir autant incarné.
Exactement, en fait. C'était un peu le foufou de la famille.
Ouais.
Parce que ce qu'il faut savoir c'est que c'est le cousin de Jeza et c'est le cousin de Reza et de Mook qui était le général manager et donc les quatre étaient très liés et lui c'était vraiment c'était les femmes, c'était le gars de la rue qui se souciait de rien, il était pas méchant hein, mais c'était mais Reza a su tirer de lui, de sa folie, de son côté un peu décalé.
Ouais.
Il s'est dit, moi, je vais créer ton personnage. Et tout a été créé autour de lui. Après, il n'a pas su contrôler hein, son image. Mmh. Mais Reza avait réussi à tirer les verres du nez et tirer son essence pour que cette folie soit vraiment inspiratrice.
Nemo, c'était qui, toi, ton rappeur préféré du Wu à l'époque? Parce qu'il y avait un peu ça. Tout le monde choisissait aussi. Tu parlais de comics. Même les noms, il y avait un côté presque super-héros.
C'était fait comme ça. Hein. Ils prenaient des noms. Bah, d'ailleurs, Tony Stark, Iron Man. Ils étaient très inspirés par les comics, par les dessins animés.
Et dans le premier album du Wu, t'as un moment, justement, un extrait d'une interview au début d'un morceau où Method Man explique, voilà, Ghost fait ce qu'il est, il s'appelle comme ça. Et c'est comme s'il décrivait les pouvoirs de chaque membre.
Ah oui, c'était ça.
On choisissait un super-héros.
C'est les films de karaté, c'est les Marvel, tout était mélangé.
Exactement. C'était qui ton préféré?
Bah moi je pense qu'au début c'était Ghostface qu'il a, parce que on le voyait pas dans les clips. S'il avait ce truc où il voulait pas être montré, parce qu'il était
c'est
un
mystérieux.
Peu recherché par la police et tout, et tu le voyais avec un bas sur la tronche, avec un peu, on savait pas trop qui c'était et tout. Et je trouvais déjà qu'il avait une énergie un peu différente. Et on savait pas s'il était là ou c'est. Au début, j'arrivais pas. Et après, sinon, en vrai, on était tous au départ fans de Method Man. Tu vois. C'était celui qui avait le plus de style, qui bougeait le mieux, qui avait les morceaux les plus efficaces. Ça s'est un peu estompé après moi en 95-96.
Après le deuxième, sur le deuxième album.
Même le premier album en fait était un peu décevant, mais ça restait le meilleur rappeur de groupe, c'est-à-dire que c'est celui que tu voyais, il était en avance, il était en avance stylistiquement, dans la façon de rapper.
La gestuelle, la manière de danser.
Ses clips, tu vois, Bring the Pain, le clip dans le bus, c'était flippant en fait, je me rappelle vraiment des clips moi.
Olivier, t'avais un préféré toi? Ou c'est trop dur?
Non, c'est trop dur entre guillemets, mais c'est vrai qu'à l'époque... Raekwon était arrivé quand même. C'était chaud. Quand il était arrivé avec son. Même quand tu écoutais Cream, tu dis ah ouais. J'ai vu des insuffisances cardiaques lors de certains concerts dès que c'était joué. Non, il amenait une attitude. C'était pas le meilleur, mais il y avait cette attitude aussi comme méthode. Et c'est là où on voit la combinaison de Reza d'avoir réfléchi à emmener différentes personnalités. Ouais.
Tu viens de me faire l'introduction parfaite pour le morceau qu'on va écouter tout de suite, Cream.
Nigga one, guy. Word up. Look out for the cops, though. Cash food. Word up. 2 for 5s over here, baby. Word up. 2 for 5s. Niggas got garbage down the way. Word up.
Cash rules everything around me. Cream it.
Yeah. Check this old fly shit out. Word up.
Cash rules everything around
joint.
Me. Cream get the
here
money.
We, here we
dollar,
go.
Dollar,
check
dollar
this
bill,
shit.
Yo.
Yeah. I grew up on the crime side, the New York Times side. Staying alive was no job, had second hands. Moms bounced on old men. So then we moved to Shaolin land. A young youth, you're rocking the gold tooth. Low goose, only way I began to G-York was drug loot. And let's start it like this, son. Rolling with this one and that one. Pulling out gats for fun. But it was just a dream for the team who was a fiend. Started smoking wools at 16. And running up in gates and doing hits for high stakes. Making my way on fire skates. No question, I was speed for cracks and weed. The combination made my eyes bleed. No question, I would flow off and try to get the dough off. Sticking up white boys on ball boards. My life got no better. Same damn low sweater. Times is rough and tough like leather. Figured out I went the wrong route. So I got with a sick ass click and went all out. Catching keys from cross seas. Rolling in MPVs. Every week we make 40 G's. Yo, nigga, respect my a nigga to check notch.
But I'm alive on arrival. I peep at the shape of the streets to stay awake to the way selling drugs and such, who never had much, trying to get a clutch on what I could not. The court play me short, now I face incarceration, pacing, throwing up states, my destination, handcuffed in back of a bus, 40 of us, life as it's shorty shouldn't be so rough, but as the world turned, I learned life was hell, living in the world no different from a cell, every day I skate from takes, giving chase, selling bass, smoking bones in the staircase, though I don't know why I chose to smoke cess, I guess that's the time when I'm not depressed, but I'm still depressed, and I ask, what's it worth? Ready to give up, so I seek the old earth, who explain working hard may help you maintain, to learn to overcome the heartaches and pain. You got stick up kids, corrupt cops, and crack rocks, and stray shots, all on a block that stays hot. Leave it up to me while I be living proof, to kick the truth to the young black youth. When shorties running wild, smoking cess, drinking beer, and ain't trying to hear what I'm kicking in his ear. Neglected for now, but yo, it got to be accepted, that what? The life is hectic.
C'était Cream du Wu-Tang, extrait de l'album Hunter the Wu-Tang, The 36 Chambers.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Ce soir, nous parlons du Wu-Tang à l'occasion de la sortie du film Wu-Tang Experience. À la fin de l'émission, il y aura une interview de Reza que j'ai eu la chance de mener. Je suis avec Nemo et Olivier Nguessan pour parler du Wu. On parle beaucoup du premier album, on parle beaucoup des premiers albums solo des membres, mais finalement, est-ce que le prime du Wu-Tang a duré longtemps ? Est-ce que finalement, c'est une bulle qui a duré quelques années, et en tout cas, l'aura est intacte, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est encore extrêmement présente aujourd'hui, mais finalement, au regard du moment où le Wu-Tang a été dominant, ça n'a pas duré si longtemps que ça, finalement, Olivier.
Non, c'était une courte période, en même temps, pour 9 rappeurs, il n'y a pas eu une période, on va dire, faste pendant 10 ans. Hein. Donc, moi, je pense qu'entre, on va dire, 93 et 2000, à peu près, ça commençait aussi à décliner, puisque certains aussi galéraient sur les albums qui n'étaient pas forcément excellents, hein, faut le dire. Hein.
Oui.
Même Méthode, quand il était venu à Paris, shooter et tout, on rappelle avec l'époque de Julia Chanel et tout, c'était pour moi une époque où il n'était déjà pas bon.
Ouais.
Donc, voilà. Rayquan aussi galérait. Quand j'ai commencé à travailler avec lui sur... on en parlait tout à l'heure sur le Hulk Harry Rayquan, c'est pas une période terrible.
Je le précise parce qu'effectivement, il y a un morceau extraordinaire, il faut le dire, dans l'histoire du rap français, qui est une collaboration entre le rappeur français Hulk Harry du 81 et Rayquan, membre du Wu-Tang, qui est peut-être, probablement, la meilleure collaboration entre un rappeur français et un rappeur américain. Et donc, tu nous disais en tête que tu avais œuvré sur ce...
Ah oui, c'était moi qui avais tout coordonné sur ce projet. J'avais emmené tout le monde à Staten Island, hein, on était partis et tout. Et c'était... Franchement, ça reste des très très beaux souvenirs.
Mais c'est vrai que c'est une époque où déjà, un rappeur comme Rayquan tombe pas en désuétude, mais un petit peu quand même.
Exactement, c'était compliqué. On va dire, moi je dis que c'est compliqué, mais c'était pas...
En fait, ça, les cycles allaient très vite, et c'est vrai que début 2000, il y a eu Eminem, il y a eu 50 Cent,
et puis il y avait DMX, qui était
DMX,
là, qui...
DMX, ça fait mal.
DMX, ah oui, excuse-moi Nemo, personne ne s'y attendait en fait. DMX, il est arrivé, il les a tout giflé sur des albums, et il vendait. Ils vendaient énormément.
Est-ce qu'aussi, il n'y a pas peut-être des tensions qui ont pu un peu briser peut-être l'espèce de domination du groupe Nemo ?
Bah, en vrai, 9 rappeurs, c'est très dur. Déjà, un groupe où ils sont 3-4, c'est dur. Donc là, 9...
Oui, c'était compliqué.
Pour venir sur les concerts, ils n'étaient jamais tous là. Il y a toujours un moment où les gens se disaient « Ah, je me suis fait arnaquer, je suis venu pour voir Rayquan et Ghostface, j'ai vu une Spectadec, You God et Capadonna. » Et donc, il y a eu tout un truc. Il y avait Reza à chaque fois, mais je pense que il s'est beaucoup... Moi, ce que je trouve fort, c'est que justement, la marque est restée. Quand tu dis Wu-Tang, tout le monde sait ce que c'est.
Exactement.
C'est un peu comme les Rolling Stones, quoi. C'est genre...
Le W, c'est comme le logo des Rolling Stones avec la langue. Enfin, il y a un truc qui est aussi iconique que
ça. Et tu sais ce que ça veut dire. C'est du vrai rap pur. Ils ne sont pas pervertis dans un truc, tu vois. C'est vraiment un délire. Le Kung Fu, etc. Et donc, en effet, la vraie période énorme du Wu, ça dure, à mon avis, entre 5 et 10 ans. Les années 90, en fait. Début 2000, ils sont un peu déjà dépassés.
Oui, certains sont out déjà.
Mais après, il y a Ghostface qui a plu.
J'allais dire, c'est important de dire quand même que dans cette période-là, Ghostface, qui est un des membres du groupe, sort des très très bons albums.
Puis c'est Tony,
etc. Et lui, je vous prouve que c'est celui qui a le mieux vécu les années 2000, en tout cas. Il y a des excellents albums.
Puis c'est mélangé,
il était sous-côté.
En plus,
moi, je trouvais ces albums qui étaient super bons, il était sous-côté.
Ouais, parce que je pense que justement, il parlait peut-être à une ancienne génération, alors que lui se mettait avec la nouvelle, avec les Deluxe, avec Chic Louche,
Styles P et Missy,
tout. Et ça, des fois, je pense que le public suivait pas ou n'arrivait pas à capter.
Puis parce qu'il voulait le côté Ghostface d'avant aussi.
Bien
et donc, alors que lui voulait aussi attirer un nouveau public. Et après, comme tu le disais, Mehdi, il y avait des tensions internes.
Oui.
Il y a des choses que je connais. Il y avait des tensions internes déjà sur les répartitions d'argent, les signatures de contrats. Certains n'avaient pas aussi de bons managers, c'est tout, pour gérer la pérennité, et aussi de bons DA. Parce que ce qu'il faut savoir, vous le savez, sur chaque album américain, on a des bons DA. Et certains, peut-être, ne voulaient pas mettre l'argent aussi pour payer des bons DA dans la direction artistique et autres.
Parce qu'avoir un son de premier... Reza était plus tout le temps là, quoi.
Oui, parce qu'avoir un son de premier ne garantissait pas à un membre du Wu-Tang du succès.
Donc,
voilà.
C'est important quand même de dire que même si on parle du premier album, il y a d'autres excellents albums. Je pense à Wu-Tang Forever, je pense à Iron Flag, même à The W. Il y a de très bons morceaux, comme par exemple Reunited. Yo, the Riddler, money won't tickle off, we collect a lot. Bigger dick, sex enigma, pistol fertilize your stigma. Stink box, order from Pink Dot. MCs get stuck on ink blocks, airsoft plug to the sink box. Who take it crop, take your brain on space crop. Talk strange like we talk. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, même les moins jeunes mais qui ne connaissent pas bien Wu-Tang, ça reste quand même une galaxie assez incroyable à découvrir. Le Wu-Tang, quel héritage vous voyez dans le rap actuel du Wu-Tang, Olivier?
Moi, je dirais que même des gens comme, on le voit, Drake, avec son morceau Wu-Tang Forever, parce que la jeune génération n'a pas compris. Et quand Drake voit le Wu-Tang, il est comme ça. Kendrick aussi, pareil. Et Reza vit à Los Angeles maintenant, puisqu'il y a sa partie cinématographique. Donc, même Dr. Dre, ça, une de ses références, c'est le Wu-Tang.
Bien sûr.
Tupac, qui est décédé, et il était très proche d'eux. Donc, Biggie aussi. Donc, il réunissait tout le monde. C'est ça qui était phénoménal. Et un membre du Wu-Tang pouvait enregistrer même avec Master P ou avec les Ghetto Boys.
Ils sont des rappeurs du sud des États-Unis.
Exactement. Et ils ont su trouver cette essence, mais je pense que même A$AP Rocky, qui a...
rappeur
new-yorkais, mari de Rihanna, puisqu'on peut l'appeler comme ça.
Mais
leur enfant s'appelle Reza, donc c'est qu'il y a une inspiration.
Ouais.
Donc c'est incroyable.
Moi, je pense à Haute Future, par exemple, quand ils se créent au départ.
Haute Future, c'est le collectif, notamment Tyler, avec Tyler the Creator,
Sweatshirt. Franchement, c'est le Wu-Tang, quoi. Enfin, ils ont créé un peu Haute Future comme si c'était le Wu-Tang.
Génération.
Ça a été vraiment une déflagration d'arriver avec un groupe qui a un drapeau, en fait, un W, avec autant de membres et autant de styles musicaux différents.
Qualitatif.
Qui fait qu'en fait, pour moi, c'est infusé dans tout le rap américain, parce que finalement, j'ai envie de dire, tous les rappeurs actuels, ils doivent quelque chose à un des membres du Wu. Il y en a, ça va être Raekwon Ghostface, il y en a, ça va être Method Man avec Redman à cette période-là, il y en a, ça va être ODB, parce qu'en vrai, ODB, il a inventé le rap un peu en ad-lib avec des choses un peu bizarres. Le fait qu'il n'y ait plus de frontières, le fait qu'il y ait Playboi Carti, c'est un peu ODB, en fait.
Oh là là, là, ça, j'adore ce que... ce genre de comparaison que j'adore.
C'est obligé, parce que le fait que maintenant on accepte que les rappeurs peuvent faire uniquement des ad-libs, que Young Thug puisse faire des choses bizarres, ODB, il l'a fait avant. Il commence un morceau en faisant une minute. Et on dit, c'est OK, on le laisse sur l'album.
C'est un chef-d'œuvre.
Olivier.
Moi, j'avais enregistré avec ODB, et c'est vrai que...
Bon, déjà, la phrase est
folle. On peut s'arrêter là.
et malheureusement, il est décédé pratiquement quelques mois après, mais déjà, je sentais sa folie. Et c'était quelqu'un d'attachant, et je pense qu'il a su emmener ce côté folie. Mais cette folie était déjà en lui, et il a su transposer ça dans la musique. C'est ça qui est incroyable. Reza a vraiment... Parce que quand je voyais les productions, je me disais, même par Pharrell et tout, je me disais, ah ouais, quand même, il a réussi à bosser, il a réussi à poser. Donc,
Moi, j'ai écouté Chimie Chimie Yeux il n'y a pas longtemps, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est juste une comptine où il y a deux fois le même couplet. Genre, il n'y a rien en fait. Il a posé une fois. Et avec ça, ils ont réussi à faire de la musique. C'est genre.
Parce que ces morceaux n'étaient pas longs en soi. Non, hein. Quand tu écoutes les morceaux d'ODB, c'est vraiment du fast-food.
Il y a notamment une fameuse anecdote que vous connaissez, j'imagine, mais que peut-être tout le monde ne connaît pas. C'est sur le tournage du clip avec Mariah Carey.
Oui.
Où
le
tournage prend un temps monstre parce qu'ODB n'est pas dans l'état vraiment de le faire, etc. L'histoire se trouve sur Internet. C'est assez drôle. Mais ça montre aussi à quel point il était un peu compliqué à gérer.
Et comme me disaient ces grands artistes, même sur l'enregistrement de Mariah Carey, parce que l'équipe m'a raconté. Ce qu'ils m'ont dit, Olivier, ils ont besoin de nous. C'est pas nous qui avons besoin de Mariah Carey. À l'époque, vous voyez comment ils transposaient les choses. Et c'est vrai, Mariah Carey avait besoin d'eux pour revenir dans la course. Donc ils avaient une position très forte déjà.
Rapidement, messieurs, si je veux vous demander le meilleur album estampillé Wu-Tang, le premier album. On enlève le premier album du Wu, qui est souvent vu comme le meilleur. Soit un album du Wu-Tang, soit un album d'un membre du groupe. C'est lequel pour vous, Olivier?
Avec Juan.
Only Built for the Cuban Links.
Je peux l'écouter encore avec cette partie mafioso. Je suis pas tellement dans le côté mafioso, mais pour moi c'était un film quoi.
Ouais. Nemo.
Bah j'ai le même en vrai. Je pense c'est ce qui reste le plus chez moi, surtout parce qu'il y a cette liaison qui se crée avec Queensbridge, avec Mobb Deep, Nas, et donc la musique finalement vieillit mieux. Et ça reste mieux à mon avis que Method Man, et je suis moins genius, mais ça se joue sur ces là, hein. C'est ceux de 95 quoi.
Messieurs, c'était un vrai plaisir de vous avoir. On aurait pu parler du Wu-Tang pendant des heures, d'ailleurs on va le faire en antenne, on va continuer à parler du Wu-Tang. Merci beaucoup, merci Olivier Nguessan,
merci Mini.
Nemo, c'était un vrai plaisir. On va s'écouter un classique du Wu, Gravel Pit, et juste après on aura l'interview avec Reza. Gravel Pit du Wu-Tang. 1, 2, 1, 2, yo check this out, it's the jump board right now. I want everybody
from the land of the lost, behold the pale horse, or course. Follow me, Wu-Tang gotta be the best thing since Starks and Clark Wallabies. African killer bees, black watch. On your radio, blowing out your watch. From Park Hill, the house on Haunted Hill. Every time you walk by, your back get a chill. Let's build, want to talk about skill. I spit like a semi-automatic to the grill. Elbow grease and elbow boom. Baby, play me, baby, fall down, go boom. Party people, gather round, count down to apocalypse.
I'm the kid with the golden arms,
and I'm the motherfucking hot nicks. Pass the blunt. My nigga, don't front. You had it for a minute, but it seemed like a month. Now I'm choking, smoking, hoping I don't croaking from overdosing. Dosing. Hey kid, when the mouth got you open, let's ride. Can't stand niggas that floss too much. Can't stand Bentleys, they cost too much. Can't wanna get up, then can't get touched. Can't wanna stick up, then can't get stuck. I'm the one that calls you bluff when your boy try to act tough. Remember what old Dirty said, I'll fuck your ass up.
Now listen, back and forth.
Check out my gravel pit.
Back and forth.
All this dirty unraveling.
As we go,
back and forth.
Back and forth.
Don't go against the grain if you can't handle it.
As we go.
Eat with the English, extinguish styles, extremists. Forehead beamers run wild as the kid with the gold cup. Stepped out like what? Was popping in y'all niggas drove up blasting. Shay Shay chocolate saute. Rich Kellamox rock those all day. 1960 shit, I'm Goldie. That's right, motherfucker, don't hold me. The world's greatest, Las Vegas paid his rock. Skin painted on my face, look ageless. Perfect combos, those bang out condos. Jet from Homo, X, we bong those bank rolls. Stank holes in plain clothes, change those bang those. Same old, same old.
Yeah, y'all, straight up, this the jump off right here. The grapple pit, word up, represent rockin' boulders. All my rich gangster style killers, y'all know what time it is. Shorty, do your thing, get up on that right now, boo. Do you? That's what I'm talking about.
Step to my groove, move like this. When we shoot the gift, of course it's ruthless. Grab the mic with no excuses in a sec. Grab the text, salute this. Executing, shaking all sets, and now I'm breaking all hex. I'm taking all bets. Move on best, who want the draw next? You won't stink, we got the bigger bank. Bigger shank to fill your tank. Still the same, kill for real. Fire your crank, slide, do or die. Fry the bait, admire the grades. On fire with a heart of hate. Bit a
shark, every part I take. Heavy darts to quake, it's all cave, all fakes. Get caught by the drop kicks. You know the thrill, yes, it's Park Hill. Yo, we hit him with the hot grits. On the go, check the flow. Singing woo, don't rock shit. Stop quick, hold the gossip. Stop sweating my pockets. I hear the hot shit.
Check out my
d'écouter un classique du Wu-Tang Gravel Pit présent sur l'album The W. Et maintenant, tout de suite, on accueille Reza. Reza, bonjour. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. On se voit parce qu'il y a le film Wu-Tang Experience qui sort, qui était un concert qui a eu lieu le 13 août 2021. À l'amphithéâtre du Colorado, avec l'Orchestre Symphonique du Colorado. Qu'est-ce que ça représente pour toi, pour le Wu, de sortir un film comme ça? Puisqu'on voit bien sûr des moments de concert, mais aussi des moments entre vous, entre les membres du groupe. Quel symbole ça représente pour vous de sortir ça aujourd'hui?
Well, first of all, you know, getting a chance to...
D'abord, ça donne la chance.
Bring the whole Wu-Tang Clan together.
De rassembler le Wu-Tang Clan.
To bring the Colorado Symphony together.
Avec le Colorado Symphony.
And to have a movie playing behind us.
Et d'avoir un film qui passe derrière nous.
Two DJs.
Avec deux DJs.
And a whole bunch of technical issues.
Plein de trucs techniques.
It was a challenge.
C'était un pari.
But the idea to show that challenge in cinema.
Mais l'idée de montrer ce pari au cinéma, d'en faire un documentaire.
First of all, it's a pleasure for me to do it.
C'était un plaisir d'abord pour moi.
But I think it's a cool story.
Mais je crois que c'est une histoire cool que la nôtre.
Young or old, can
que d'autres musiciens peuvent, peut-être, ça peut inspirer de nouveaux musiciens.
Dans le film, tu dis que toi, tu t'es inspiré du Captain Kirk dans Star Trek. dans quelle mesure, justement, il t'a inspiré ce personnage?
Yeah, because you know Captain Kirk, he likes to go where no man has gone before.
Tu sais, il aime aller là où l'homme n'a jamais mis le pied.
And as an artist, that's what I like.
Moi, j'aime faire ça.
Just try something new.
D'essayer quelque chose de nouveau.
And to be quite open with you, the Wu-Tang Brothers didn't want to do it at first.
Et au début, les Wu-Tang Brothers ne voulaient pas le faire.
And that's why in the film you kind of get this.
Et c'est pour ça que dans le film, on a
this tug of war.
Cette sorte de
guerre. But I think that in the end.
Mais à la fin,
the elevation of what that performance was,
l'élévation que présente cette performance nous a tous satisfaits.
On a toujours le sentiment dans l'histoire du Wu-Tang, et on le sait, que toi, c'est ce qu'on dit en tout cas, que tu étais le cerveau peut-être du groupe, que tu as été à l'origine de beaucoup de choses. Et on voit finalement que même encore aujourd'hui, c'est le cas, c'est encore toi qui es à l'initiative de ce projet. Est-ce que tu as l'impression que finalement, c'est toi qui tient encore la marque Wu-Tang?
Yeah, I mean, I control the trademark, of course.
Ah oui, je contrôle la marque, c'est vrai.
You know, I started Wu-Tang.
J'ai commencé le Wu-Tang comme une petite société.
In New York City.
À New York.
You know, I had maybe $10,000.
Peut-être que j'avais $10,000 avec moi.
But I decided to.
Mais j'ai décidé
invest that
d'investir
into my dream.
Dans mon rêve.
And I paid DJ Mathematics.
Et j'ai payé DJ Mathematics.
I paid on it $500.
Je lui ai donné $5,000 pour qu'il me fasse un logo, qu'il me dessine un logo.
He made it for my company.
Il l'a fait pour ma société.
And we registered as a,
et
as
on
a
l'a déposé. C'est ma marque.
And then I went and got all my brothers to join.
Et puis j'ai demandé à tous mes frères de me rejoindre.
So to say, you know, as I said in the film, and I say
c'est ce
to
que
you,
je dis dans le film, et je veux vous
you know, people
de,
say,
te le
are
dire.
You the leader of Wu-Tang?
On me demande, est-ce que tu es le leader du Wu-Tang?
And it's not that Wu-Tang needs a leader.
C'est pas que Wu-Tang a besoin d'un leader, mais il y a des moments où il nous faut une direction.
And when it's time for leadership,
et cette direction,
music or art,
que ce soit en musique, en art,
cinema,
au cinéma,
I probably had the best knowledge of it. And so I was the leader for that moment.
Nous-mêmes, et j'avais la meilleure connaissance des choses. Donc c'est pour ça que j'ai pris
when it's like a big street fight and a lot of,
c'est comme quand il y a une bataille dans la rue. Be the leader. Et il y a là, il y a Ghostface à ce moment-là qui devient le leader.
Okay. Chacun a son, yeah. a son rôle. Qu'est-ce que ça te fait quand tu vois des jeunes, des gamins de 15-16 ans qui ont des pulls ou des t-shirts avec le W du Wu-Tang, peut-être qu'ils ne connaissent pas le Wu-Tang. Comme tu sais, on voit parfois des groupes avec des t-shirts Nirvana ou Rolling Stones. Des fois, les gens connaissent le groupe, des fois, ils ne le connaissent pas. Le Wu-Tang, aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment un symbole qui est dans la pop culture. Qu'est-ce que ça te fait? Et qu'est-ce que ça fait aussi peut-être à DJ Mathematics qui avait designé ce logo sans savoir qu'il allait voyager dans le monde entier?
Well, it's really a blessing to think about it. You know,
c'est génial d'y repenser.
Was at one point considered
a small à l'époque, part of c'était considéré culture. Comme un tout petit bout, and, you know, une toute petite chose dans l'histoire de la musique. Le Rolling Stones, c'était vraiment la culture
and
dominante.
Think that hip-hop would grow to that level.
Et on ne penserait pas que le hip-hop allait arriver à ce point. Et c'est un plaisir de voir cette génération de jeunes qui connaissent le logo, qui connaissent le Wu-Tang.
We're selling out arenas.
Et puis, on remplit des stades.
I think it's a testament to the music.
Je crois que c'est vraiment quelque chose qui vient de la musique.
I think it's a testament
to the fans' love for the music. Je pense que c'est quelque chose qui témoigne de l'amour pour la musique.
And also, et puis aussi, you think about hip-hop,
si vous pensez au hip-hop,
has the elements of rock, blues,
le hip-hop,
jazz,
il contient du rock, you know, du blues, du jazz. De la soul, toute cette musique se retrouve dans le hip-hop. Donc c'est normal que cette musique devienne la voix du monde.
Puisqu'on parle de musique, bien sûr, tu es un rappeur, mais tu es aussi un producteur, tu as produit pour énormément de personnes. Et quand le Wu-Tang arrive avec ce premier album, il y a quelque chose qui est différent du reste de la musique. Même, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui se disaient « Est-ce que c'est bien produit ?» Ça sonne bizarre, ça sonne différent. Parfois, des gens se demandaient, est-ce que... Parce qu'on n'était pas censé produire comme ça. Donc, il y avait vraiment quelque chose qui ne ressemblait pas à ce que pouvait faire Dr. Dre à Los Angeles, DJ Premier. C'était un autre son. C'était d'ailleurs la force du Wu-Tang. Est-ce que, quand tu le fais, tu as conscience d'arriver avec un son qui est différent, qui est même peut-être assez dur d'accès?
I mean, that's one of the main goals of hip-hop and of myself is to be different.
Mais c'est ça le but du hip-hop et c'est ça mon but, c'est d'être différent. Quand on me demande,
what's the thing you would tell a young artist?
Qu'est-ce que tu dirais à un jeune?
And I would say,
et moi,
be
je
original.
Réponds, sois original.
Bring your voice to it.
Parle avec ta voix.
You know, Wu-Tang,
le Wu-Tang
was able to
a
make
su
the hip-hop music more cinematic.
Faire du hip-hop quelque chose de plus cinématographique. C'était pas qu'un son. Il y avait des images qui vous rentraient dans la tête. Et moi, qui adore les films de kung-fu, la science-fiction, les BD, je suis quelqu'un qui lit le Coran, la Bible, les physiques quantiques.
It's all in the music.
Tu vois, tout se retrouve dans la musique.
It wasn't just about
ce n'était pas
dancing.
Que du boom et de la danse. C'était quelque chose
and
qui était là pour susciter la réflexion.
That was the intention.
C'était l'intention, oui.
Tu parles de cinéma. Évidemment, il y a cette carrière dans le rap, bien sûr, dans la musique. Et puis, tu as aussi, toi, bien sûr, composé au cinéma, Kill Bill, par exemple, mais aussi fait tes propres films. Je pense notamment à The Man with the Iron Fist. Est-ce qu'on pourrait imaginer un autre film de ta part? Parce qu'on a eu deux. Il y a eu deux The Man with Iron Fist.
I have a new film.
Bah ouais, j'ai un nouveau film là.
That I am so proud of.
Dont je suis super fier.
It's called One Spoon of Chocolate.
Il s'appelle okay. One Spoon of Chocolate.
Has a great cast. I have Shameik Moore.
Avec Shameik okay. Moore.
Paris Jackson.
Paris okay. Jackson.
Yeah. Blair Underwood.
Blair Underwood.
And others.
Et puis il y a d'autres gens dans le film aussi comme acteurs.
Music is from Wu-Tang,
la musique
Ice
vient
Cube,
du Ice Cube, Biggie Smalls, Wu-Tang,
Jason Isbell,
Jason Isbell,
Isley Brothers, it's like
les
Marvin
Isley
Gay,
Brothers, Marvin Gaye, tout ça.
But it's to me right now,
Mais c'est à ce jour ce que j'ai fait de plus enthousiasmant, créativement. J'ai vraiment hâte. Peut-être en janvier, février, ça va sortir dans les salles. Et j'aimerais vraiment revenir et t'en parler un peu.
T'es le bienvenu, évidemment. tout à l'heure, on parlait de la marque Wu-Tang. Il y a quelque chose qu'on raconte tout le temps quand on parle du Wu-Tang, c'est comment chaque membre du Wu a signé dans des maisons de disques différentes, dans des labels différents. C'est une histoire qui a été racontée, bien sûr, mais qui était vraiment révolutionnaire à l'époque, puisque, pour le dire aux gens, souvent quand un groupe était signé dans un label, eh bien, tous les membres du groupe allaient dans le même label. Vous, vous avez fait différemment. Est-ce que ça aussi, c'était ton idée? C'était une idée collective? Comment vous avez fait ce choix qui ensuite a été repris, copié par d'autres rappeurs et artistes par la suite?
Wow, you know, at the time,
tu sais, à l'époque,
we knew that too much talent contained.
Qu'il y avait beaucoup de talent
in one group to go out through one funnel.
Ce ne serait pas possible de ne passer que par un seul tunnel, il fallait vraiment que l'on arrose, que l'on développe les choses. Et moi, je voulais que le Wu-Tang infiltre l'industrie du disque. À l'époque, l'industrie du disque, ils étaient tous en train d'être en compétition les uns avec les autres plutôt que de travailler ensemble. Et donc, dans ma tête, je me suis dit, si Old Dirty Bastard est avec Elektra chez Warner et que l'un autre va chez Gavin, Method Man sera avec Def Jam, Raekwon sera chez BMG Loud, dans ces labels-là. Et là, du coup, si jamais chacun a signé avec des labels différents, eh bien, toute l'industrie du disque va travailler pour le Wu-Tang. Et ça va être le grand profit pour nous tous. Et c'est ça qui s'est passé. Quand on est arrivé au cinquième album, chaque album qui était produit par moi faisait encore plus de... Quand on faisait un album, l'album précédent en bénéficiait à chaque fois. C'était une stratégie culturelle et commerciale. Et je pense que c'était une bonne idée. Peut-être que des années plus tard, je me suis rendu compte que si jamais vous voulez avoir une compagnie, vraiment c'est meilleur d'être un seul, de rassembler les choses. C'est ce que j'ai compris plus tard.
If I would have kept it as one, I would have had a bigger valuation.
Et donc, si jamais on avait été que un, l'évaluation de ma société aurait été supérieure. Je serais milliardaire.
Move, right?
Ça aurait été vraiment une façon de devenir un milliardaire. Cependant, mais j'ai créé une industrie pour que beaucoup de gens puissent en bénéficier.
J'ai une question très difficile. Peut-être l'une des questions les plus compliquées du rap. Quel est, selon toi, le plus grand album sorti par un membre du Wu-Tang?
Good question.
Bonne question.
But hard one.
It changes.
Ça change. Right?
But arguably,
je dirais,
you know, when you think of Cuban Lynx and
Liquid Swords,
these two always seem to have
ces deux-là,
this timeless,
on dirait qu'ils ont un côté
moment,
un peu, you know, intemporel.
But I will also say,
mais je dirais,
you know,
aussi
you know, I think maybe last summer,
last summer, l'été dernier,
Los
j'étais en route vers Los Angeles
ODB,
et j'ai passé ODB.
That's the one.
Et
so,
je dis, mais non, c'est ça.
Changes.
Donc ça change.
Tu viens de mentionner ODB, et justement, on voit dans le film Wu-Tang Experience qu'il y a son fils qui est avec vous sur scène. Qu'est-ce que ça représente aussi justement d'avoir son fils, peut-être aussi de perpétuer sa mémoire et son héritage?
I mean, it's an honor.
C'est un honneur.
Of course, it's a joy.
C'est une joie.
But it's also, you know, it's always a sadness too.
Mais aussi une tristesse.
It's very uncanny to see him.
C'est assez
be his father and be his energy.
Incroyable de le voir naturally. Retrouver naturellement l'énergie de son père.
So me and my Wu-Tang brothers,
avec mes frères du Wu-Tang,
we appreciate that the
nous sommes heureux.
Put that energy into,
que
YDB,
l'univers ait donné sa force à Young Dirty Bastard pour qu'il ait la force de rendre hommage à son père.
You know, economics into his family.
Et puis il y a tout le côté économique. Wu-Tang is for the children, c'est pour les enfants. Et voilà exactement l'exemple.
Cette expression Wu-Tang is for the children, ODB l'avait dit lors d'une cérémonie, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, qui est associé au Wu-Tang. Et d'ailleurs, dans le document, enfin dans le film, tu dis que vous voulez aussi retransmettre une énergie d'enfance, votre énergie de gamin sur scène. Cette expression de Wu-Tang is for the children, dans quelle mesure elle est importante pour toi et pour le groupe?
Yeah, I mean, it is important to continue
c'est important
to spread our light, to spread our inspiration,
de continuer à diffuser notre lumière, notre inspiration.
Look, the reward,
la récompense, c'est quand tu vois la nouvelle génération qui te prend un truc à toi. La récompense, c'est quand tu vois des gens de toutes ces nouvelles cultures, des milliers d'entre eux, et qui ouvrent comme ça, qui font le signe du W, du W, de Wu-Tang. C'est ça, c'est là où tu es content.
On parlait évidemment de la manière dont tu as révolutionné la manière de produire dans le rap, et pas que dans le rap d'ailleurs. Au début de ta carrière, tu samplais beaucoup. Il y avait beaucoup de samples, comme dans le reste du rap. Et puis, au fur et à mesure, tu as forcément fait évoluer ta technique et tu es passé même à la composition pure. Dans quelle mesure ça a été compliqué, ça, d'abandonner le sample au fur et à mesure?
Well, when you're sampling, you know, you're looking through these records.
Quand tu fais du sample, tu essaies de trouver, tu parcours tes disques et tu cherches une façon de rassembler ces sons. Et parfois, un morceau de rap, ça me prenait 7 samples de 7 morceaux différents. Et moi, je me dis, tiens, là j'ai besoin des cordes, là j'ai besoin des instruments avant. J'avais besoin de comprendre ce que c'était. Au début, je ne savais pas ce que c'était que la composition. Je ne savais pas les harmonies. Je ne savais pas que j'étais plutôt attiré dans les mineurs. Et en apprenant le solfège, je me suis rendu compte que je pouvais composer mes propres idées. Et qu'il fallait 2 mesures ou 4 mesures en tant que compositeur. Et moi, quelque part, c'est 32 mesures, 64 mesures. Et je suis prêt maintenant à composer toute une symphonie, tout un ballet.
Et je dirais que je pense que c'est une belle évolution pour moi comme musicien.
C'est une superbe évolution pour moi en tant que musicien. Ça, je sais toujours le faire, mais aussi, je peux raconter toute une histoire
en commençant par
une harmonie et aller vers d'autres choses.
Dans le film aussi, on apprend que, évidemment, tu as eu beaucoup d'influences, beaucoup de modèles, et que tu as rencontré Isaac Hayes, Quincy Jones. Et c'est vrai que Quincy Jones est souvent cité comme un des producteurs ultimes de la pop musique. Est-ce que toi, tu te vois un petit peu comme un héritier, en tout cas, comme aujourd'hui, maintenant que tu n'es pas uniquement, en plus, ça fait longtemps, mais plus uniquement un producteur de rap, comme un compositeur à la Quincy Jones, à la Isaac Hayes, est-ce que tu te vois dans cette catégorie d'artiste et de producteur?
Quincy Jones and Isaac Hayes both.
Tu sais, Quincy et Isaac Hayes ont pris du temps pour me parler, pour me diriger, pour me conseiller.
And Quincy, you know,
Isaac Hayes, 3 ans,
years,
et Quincy partageait toute sa sagesse avec moi pendant des années. C'est Quincy et Isaac qui m'ont amené à la composition de bandes originales de films. Quincy m'a dit qu'il avait fait son premier film en tant que compositeur à l'âge de 30 ans. Et je me suis dit, je vais faire mieux que ça. Et j'ai fait mon premier film à l'âge de 28 ans.
Yeah, Ghost Dog.
Ghost Dog,
classique.
De Jim Jarmusch, oui.
But they both inspired me.
Tous les deux m'ont inspiré. Mais j'ai appris un truc que j'ai envie de te dire.
I was talking to Bob James.
Je parlais à Bob James.
Nautilus.
Composer, arranger.
Super arrangeur, super musicien.
And he used to work with Quincy Jones.
Il travaillait avec Quincy.
And he told me that.
Et il m'a dit.
What Quincy was doing was he had all the
musicians. Ce que Quincy faisait, c'est qu'il avait tous les musiciens.
But a musician may go boo doo doo doo.
Un musicien faisait comme ça.
Write that down.
Et Quincy disait, hey, note ça.
Wait, write that down.
Arrête, note ça, prends note.
So he didn't have a sampler.
Il n'avait pas de sampler, il avait les musiciens. Il n'avait pas de samples. Et il fabriquait la musique, quelque part, comme un producteur de hip-hop qui prend ses petits morceaux et ses petits samples et qui en fait une composition à lui. D'une certaine façon, nous sommes des compositeurs, simplement, on ne le sait pas. Et simplement, c'est moi qui m'en suis rendu compte.
J'aimerais rapidement peut-être parler de l'album Birth of a Prince en 2003, ton album solo. Qu'un album, moi, que j'ai beaucoup écouté, qui a été très important pour moi. Et j'ai le sentiment, peut-être que je me trompe, qu'on n'en a pas tant parlé que ça à l'époque. C'était aussi une autre époque du rap, mais c'était peut-être un peu plus compliqué à ce moment-là pour certains artistes solo, notamment pour le rap new-yorkais aussi, à ce moment-là, en 2003. Comment tu vois cet album ? Parce que moi, j'ai l'impression qu'il est quand même important et qu'il est aussi symbolique d'une époque dans le rap new-yorkais.
Yeah, I think... At the time, I was going through a transition.
À l'époque, j'étais en plein moment de changement.
But I was very satisfied with the album.
Mais j'étais très content de l'album.
It was me trying to figure out
j'essayais
if I wanted to be
là,
RZA or be Bobby Digital.
Si yeah. je voulais faire quelque chose de comme be Bobby Digital, est-ce que je veux être hédoniste
or, you know, calm down
tu vois,
and be,
ou alors me calmer un peu
normal.
Et être yeah. normal. Je sais pas ce que c'est que normal.
But, I think it's a good album, and I think
that bon album,
over time people will discover
et qu'avec
it more.
Le temps, les gens le redécouvriront.
And I think like the production was interesting as well.
La production était intéressante, je trouve.
And one of the things that happened from the album that I'm really proud of is that
et
I was able to start the career of another young producer named
Blondes Nazareth. C'est que j'ai pu commencer la carrière de Blondes Nazareth, qui vient de Détroit et qui a aussi une carrière maintenant.
And I also think that the
lyrical
content of the
album, les paroles de l'album
is worth studying in school.
Et mériterait d'être étudié dans les écoles.
Est-ce que Reza a une vie normale aujourd'hui?
Now I'm getting close.
Ça approche.
Yeah, you know, I'm blessed with a beautiful wife.
J'ai le bonheur d'avoir une épouse fantastique qui est aussi ma collègue. On travaille, on fait des films ensemble, on produit des films ensemble.
I've been blessed,
j'ai le bonheur
de keep my children out of the same trouble I was in, you know.
De que mes enfants ne soient pas dans les mêmes soucis que moi j'avais à leur âge.
They're not running from the cops like me and Ghostface.
C'est ce que j'ai appris ça de Ghostface.
And I think I've been able to give back to my community.
Et j'ai été aussi capable de rendre à ma communauté. À ma communauté, économiquement,
and
socialement, de rendre des choses. Et aussi au niveau de l'inspiration.
So is that normal?
Est-ce que ça, c'est normal?
J'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est assez extraordinaire, quand même, comme vie. Justement, par rapport à ce parcours, il y a quelques temps, j'avais eu la chance d'interviewer LL Cool J, qui aussi a commencé même avant le Wu-Tang, dans les années 80, et qui est encore excité, qui a encore l'énergie de quelqu'un de jeune. Et j'ai l'impression que toi, c'est pareil. C'est-à-dire que il y a tout le temps des nouveaux projets. On apprend dans le film que tu as enregistré encore 300 nouveaux morceaux pendant le Covid. Là, tu nous parles d'un film qui arrive. J'ai le sentiment que tu es tout le temps en mouvement. D'où ça te vient, ça ? Parce qu'il y a plusieurs artistes de ta génération qui sont moins actifs, qui ont peut-être moins le temps, qui ont moins l'énergie. J'ai le sentiment que toi, tu fais partie de ces gens qui créent constamment.
Yeah, when you think about, you know, well, first of all, LL is one of the greatest, right?
LL, c'est un des plus grands. Il a commencé tellement jeune.
And he inspired the generation.
Il a inspiré toute une génération.
Of stronger lyrics, more stronger
avec plus de paroles fortes, plus de vocabulaire dans les paroles.
Yes, he continues to create.
Il continue à créer.
And me myself, the same.
Et
right?
Moi-même, c'est la même chose.
I can't help but create.
Je peux pas m'empêcher de composer.
I think an artist.
Être un artiste, c'est quelqu'un qui est comme une antenne qui capte les signaux partout dans le monde.
If he tunes himself,
si l'artiste arrive à recevoir, à capter ces signaux,
and if he has the right knowledge,
et qu'il a la connaissance,
skill,
un peu de talent technique, alors il peut amplifier ces signaux et les traduire en musique,
books,
en film, en roman,
paint,
en
dance,
tableau, en danse.
You know? And I feel that way. So for
je me sens complètement comme ça.
Life itself
pour moi, la vie,
is creativity,
c'est la créativité.
I always tell my wife, you know, about the power of life. And I make a joke about, you know,
je blague souvent
Like, I don't need to go to Mars
à ma femme,
to
je dis,
life.
Il y a des gens qui vous disent, allez, partez sur la, place, la planète Mars. Et à ma femme, je dis, mais je n'ai pas besoin d'aller sur la planète Mars.
Put it in a bag in the closet. And life will grow.
Si tu prends un peu de terre, tu la mets dans un petit sac, et là, la vie va venir. Moi, je regarde la belle ville, Paris,
and I'm sure et je suis certain que
je, dans l'avion qui va me ramener chez moi, je vais écrire un morceau sur Paris.
Reza, c'était un plaisir, un honneur. Merci beaucoup, merci pour ton temps.
Thank you. Peace.
Merci, paix à toi.
On rappelle donc que le film Wu-Tang Experience est disponible dans les salles. Merci en tout cas aux personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Alexia Lacour, Redouane Tella, merci à nos invités Olivier Nguessan et Nemo. Une émission réalisée par Gaëtan Coy. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Loïs Moreau, Jérôme Ragano, Benjamin Reyes, Morgane Fougéry et Lilou Foucard. Merci aussi à Harold Manning pour la traduction de l'interview avec Reza. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, nous recevrons une autre légende du rap français, cette fois Pete Bacardi.